Ça a été intéressant d'étudier pour le message ce soir parce que je suis tombé comme par hasard, entre guillemets, sur des belles... Oui, pour les enfants. Fait que, Seigneur Dieu, je te prie pour les enfants, Seigneur Dieu, pour ce temps-là où est-ce que ton Église peut participer avec toi pour élever la prochaine génération, Seigneur Dieu. Je te prie pour les moniteurs, je te prie pour les enfants. Que vraiment on puisse leur communiquer, pas seulement la joie de vivre, Seigneur Dieu, mais aussi la joie de te connaître. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, je disais que j'ai étudié le message ce soir, puis par hasard, entre guillemets, je suis tombé sur un principe que je n'avais pas vraiment entendu parler, puis je suis vraiment enthousiasmé de ça. Je vais essayer de me contenir pour ce soir, parce que parce que c'est intéressant, mais je veux pas non plus noyer le bébé. Fait que, vous savez, les dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup de la culture. Je vais parler de la culture, puis je vais parler de comment est-ce que le croyant, qui veut marcher pieusement en Jésus-Christ, doit apprendre à avoir une relation avec la culture qui l'environne. Une relation, une interrelation avec la culture qui l'environne. En l'étudiant aujourd'hui, j'ai réalisé que depuis les années 30, aux États-Unis, mais vous savez que quand les États-Unis attrapent le rhume, souvent nous autres on tous, le Canada, mais depuis les années 30, il y a tout un développement social qui s'est fait dans la société américaine, dans la société canadienne en parallèle, et ça a été le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence. Avant les années 40, c'était, il n'y a pas vraiment de période d'adolescence. On devenait adulte quand on se mariait, quand on avait des enfants, on trouvait un job où on rentrait, on travaillait sur la terre du père ou du grand-père. On se mariait, on avait des enfants, on travaillait, on devenait adulte. Peu importe l'âge que tu avais, entre 15 et 20 ans, là, habituellement tu devenais adulte vers cet âge-là quand tu te mariais. L'idée biblique, l'idée scripturaire, c'était que tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à ta femme, puis bon, t'es marié. Donc, tu deviens un adulte à partir de ce moment-là. Tu es responsable pour toi-même. Mais il n'y a pas vraiment de période d'adolescence. Avec les années 40, il y a eu la guerre. Bien, avant les années, il y a eu les deux grandes guerres. Dans les années 30, il y a eu la Grande Dépression. Là, il y a eu la guerre froide. Il y a eu plein de choses. Puis là, les gens aux États-Unis ont voulu comme, qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Si on perd la jeunesse, on perd tout. Tous les jeunes, tous les adolescents ont commencé à aller à l'école secondaire. Ils ont commencé à fréquenter l'école secondaire. Ils ont commencé à avoir une sous-culture aux États-Unis qui commençait à avoir la même pensée, le même genre de musique. Ils écoutaient la télévision, ils allaient voir les films, ils écoutaient surtout la radio à l'époque. Et cette pensée-là, cette sous-culture américaine-là, s'est développée. Les évangéliques ont été assez proactifs dans ça. Ils se sont dit, on va commencer à adapter l'Église pour aller rejoindre cette jeunesse-là qui se développait, cette adolescence-là qui était nouvelle. Les années 30, avant ça, ça n'existait pas vraiment ça. Il y a eu ce changement social important. Puis là, il a fallu que l'Église s'adapte. S'adapte à ça. Et là, tranquillement, il est rentré dans l'Église, ce que l'auteur appelle la, je vais essayer de le dire comme il faut, là, juvénilisation du christianisme. C'est ça que j'ai comme lu aujourd'hui, puis je trouvais ça très intéressant comme principe. Juvénile, on connaît le mot juvénile, la jeunesse. Et là, parce que toute une génération a grandi dans des groupes chrétiens qui essayaient d'être à la fois, d'enseigner à la fois, mais vraiment parler à des jeunes, puis être pertinent pour cette jeunesse-là. Ils ont commencé à adopter un peu la culture environnante, la musique, et souvent les groupes de jeunesse, années 50, années 60, commençaient à adopter la musique environnante, une musique qui ressemblait à la culture environnante pour faire des louanges dans les groupes jeunesse. Là, les gens ont grandi dans ça, puis tranquillement, années 70, les jeunes qui avaient grandi dans ça, mais sont devenus des leaders dans l'Église. Puis ils se sont dit, mais il faudrait peut-être rendre l'Église pertinente pour la culture environnante. Et là, ce qui est intéressant dans ça, c'est que parallèlement à ça, dans la culture américaine, il y a aussi eu, en dehors de l'Église, ce genre de juvénilisation des gens, des adultes, pour des raisons purement pécuniaires, pour de l'argent. On dit aux adultes, on dit dans les commerciaux, et dès l'avènement de la radio et de la télévision, la publicité, on voulait vendre des choses, puis on dit aux gens, mais laisse-toi aller à ça, fais-toi un lot, laisse aller ta maîtrise de soi, puis achète ça. Grosso modo, c'est ça qui était véhiculé dans les médias, pour différentes choses. Et ça a été de plus en plus. Alors là, l'Église, et donc l'Église est devenue de plus en plus juvénile dans son approche envers les individus. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Je vais vous lire certaines citations de ce que j'ai lu aujourd'hui, que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. L'auteur disait qu'à partir des années 50-60, les groupes jeunesse ont commencé à décrire la vie chrétienne en termes de sensations fortes, de bonheur, puis de relations amoureuses. Au même titre qu'une relation amoureuse qu'on avait avec dans le monde. Okay? Donc, ils ont commencé à dire que ce que je recherche, c'est une relation amoureuse avec Jésus. Avant ça, ça n'était jamais utilisé, cette expression-là. Bon, ce n'est pas nécessairement mauvais en soi. Mais sauf que l'emphase était mise sur les émotions, sur l'expérience, sur les sensations, le thrill que m'apportait le message. Et s'il n'y avait plus de thrill, s'il n'y avait plus de divertissement, parce que les groupes jeunesse étaient divertissants pour accueillir la clientèle, pour accueillir les jeunes, s'il n'y avait plus ce divertissement-là, bien, est-ce que Dieu était vraiment présent? Parce que j'ai appris, les jeunes, la jeunesse a appris à connaître Dieu dans un contexte très stimulant pour les émotions, divertissant, qui était le fun. Ça, en soi, c'est pas mauvais. Mais la juvénilisation, je vais finir par le dire correctement, qu'est-ce que c'est? C'est quand le mot juvénilisé veut simplement dire qu'un adulte va adopter des comportements, des attitudes, des choses qui sont propres à l'adolescence. Un adulte qui est juvénilisé, même indépendamment de l'Église, c'est un adulte qui n'a pas grandi, qui est resté ado. Puis, ce que l'auteur disait, c'est qu'on assiste à ça dans l'Église contemporaine. Hein? Une Église qui est ado. Point, c'est dit. Puis, je vois ça très intéressant. Intéressant. Il disait, trop d'adultes acceptent une version christianisée du narcissisme adolescent et la célèbrent comme une spiritualité authentique. Narcissisme, ça veut dire que souvent les adolescents sont très concernés, parce qu'il y a tout ce changement hormonal, changement physique. Souvent les adolescents sont concernés par la question de l'air. C'est normal. Ça fait partie de la croissance normale de la personne. Mais dans l'Église, dans tout ce contexte-là de développement qui ne s'est pas fait avec les années, il dit, trop d'adultes acceptent une version christianisée. C'est qu'on a christianisé cette attention au moi. Souvenez, dimanche, j'ai lu le verset parce que c'est dit que les gens se repaissent d'eux-mêmes, sont concentrés sur eux-mêmes. Dans les derniers temps, il va arriver un temps où est-ce que les gens sont concentrés sur eux-mêmes. Pour un adolescent qui est narcissique, qui est concentré sur qu'est-ce qu'il y a de l'air, qui voit, qui se regarde dans le miroir, puis tout ce qu'il voit, c'est le petit bouton qu'il a dans le nez. Puis ça prend une ampleur démesurée dans son visage. Puis là, il vient pour le péter, puis là, ça devient rouge, là, ça s'en vient encore pire. C'est tout ce qu'il voit dans le visage. C'est une emphase démesurée pour ce petit bouton-là. C'est correct. Pour un adolescent qui a quelque chose dans le miroir, c'est correct. C'est normal. C'est peut-être, quand ça en vient trop exagéré, on essaie de contrôler, là. Mais quand c'est les adultes qui sont tellement centrés sur leurs propres besoins, Et là, il y a eu tout le mouvement, et j'en parlais la semaine passée, de la musique chrétienne contemporaine. Où est-ce que les thèmes de passion, d'émotion, d'aimer Jésus, d'amour, tu pourrais pratiquement, là, tu ferais une chanson d'amour, puis plutôt que mettre le nom du chum, tu mettrais Jésus, ça ferait. Hein? Ça passerait bien dans une musique contemporaine chrétienne. Parce que on a mis beaucoup plus d'enfants sur l'émotion que sur le contenu. La Bible a pu être enseignée parce que ce qu'on voulait, c'est de garder les jeunes dans le cœur, de les attirer, de les garder, mais plus les enseigner. Il dit, Dieu la foi, et ce que ça produit, cette version narcissique du christianisme, c'est que Dieu, la foi et l'Église n'existent que pour m'aider avec mes problèmes. Je ne suis plus là pour œuvrer avec Dieu dans la marche chrétienne. Je suis là pour... Dieu est là, la foi, l'Église est là pour m'aider à régler mes problèmes. Et là, Dieu devient le règle-problème. Dieu est à mon service et moi, je ne suis plus au service de Dieu. C'est comme si, pour l'enfant, on se met dans le contexte de l'adolescence, où est-ce que l'adolescent sort d'une période de vie où est-ce que le parent est à son service, pour ainsi dire, jusqu'à un certain point. L'adolescent, il est dans un lieu intermédiaire entre l'enfance puis l'adulte, où est-ce que là, il doit découvrir qu'il est autonome, que papa et maman sont là, mais ne sont pas nécessairement à son service, qu'il doit commencer à travailler, il doit commencer à subvenir à ses besoins. Mais là, Dieu, ah ben finalement, Dieu, ça remplace pour pas un moment, il est là pour moi. Puis trop souvent, en tant qu'adulte, on réalise que Dieu, ou en tout cas, on pense que Dieu, à cause de tout ce développement social-là, dans le monde évangélique, Dieu est à mon service. D'où toutes les chansons qu'on entend, la musique contemporaine chrétienne, le CCM, le Christian Contemporary Music, là. On voit ça, ces émotions. Ça stimule l'émotion, ça stimule les émotions, mais peu de contenu, malheureusement. Peu de contenu. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur les choses? Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a des choses à dire sur les choses. Et si ça ne vient pas me parler, c'est inutile. Il dit, si nous croyons qu'une foi mûre implique plus que de bons sentiments, des croyances vagues et vivre comme bon nous semble, alors la juvénilisation a revitalisé le christianisme américain qu'au prix d'avoir confiné beaucoup d'individus dans une immaturité spirituelle. Ce qui veut dire, c'est que c'est vrai qu'à certains égards, ce mouvement-là a été bon pour l'Église américaine. Parce que c'était vivant. C'est comme si on a rentré beaucoup de passion dans une Église qui, c'est vrai, dans les années 30, 20, c'est les années 20, les années 30, qui était peu passionnée, très rigide, peu passionné. Alors, on a fait rentrer la passion par les jeunes, c'est excellent. Mais on a pris ce qui était de bon, la doctrine, l'enseignement, les vérités, les standards, puis on l'a mis ça au poubelle. Pour garder la passion de la jeunesse. C'est pour ça qu'il dit, si nous croyons qu'une foi mûre implique plus que de bons sentiments, plus que les croyances vagues, plus que de vivre comme bon il me semble, alors la juvénilisation a revitalisé le christianisme, ça l'a revitalisé, ça donne de la vie au christianisme, mais au prix d'avoir confiné, d'avoir renfermé un bon nombre d'individus dans une immaturité spirituelle. Pourquoi immaturité? Parce qu'avant, puis jusqu'à la période, jusqu'à l'avènement de l'adolescence, je l'ai dit tantôt, avant, ben, tu devenais adulte quand tu avais une famille, tu avais des enfants, tu savais que tu travailles, tu prends soin de ta famille, tu prends soin de tes enfants. Et là, tu avais des responsabilités. Un adulte, c'est responsable. Un adulte, ça pensait aux siens, aux autres. Puis un adulte, ça ne pensait pas à lui-même parce qu'il devait s'assurer de la survie de sa famille et souvent de ses parents plus tard. Donc, un adulte, c'était quelqu'un de responsable qui vivait pour les autres et en fonction des autres pour, un, veiller à faire élever sa famille, prendre soin de sa famille, s'assurer qu'il manque de rien. Mais là, on arrive avec, dans les années 40, parce que là, c'est plus ça. Là. On veut rester adolescent. La publicité dit, non, reste jeune. On pourrait parler beaucoup, très, très longtemps. Et ça me faisait, ce matin, en lisant aujourd'hui, je faisais plein de liens sur tout ça. Puis je me disais, c'est vraiment intéressant. T'sais. Il y a des choses qu'on avait parlé, toi et moi. T'sais. Mais cette notion de juvénilisation, c'est bien intéressant. C'est intéressant parce que ça rentrait directement dans ce qu'on avait parlé de la culture. Puis ça fait partie de notre culture nord-américaine. Pourquoi la culture nord-américaine est si égocentrique? Ça veut dire si centrée sur le moi? Parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas quitté l'adolescence spirituelle pour devenir des adultes spirituels. Des gens qui connaissent la parole, des gens qui sont capables de donner une réponse claire de leur foi, de donner une réponse adéquate à ceux qui demandent raison de l'espérance qui est en nous, l'Empire. Et donc, on est resté adolescent. Pas que les adolescents sont tous narcissiques, c'est pas ça que je dis. Loin de là, au contraire. Mais la culture adolescente a tendance à l'être. Pourquoi? Bien parce que l'adolescent, à cause de tous les changements qu'il y a dans lui, commence à repérer l'autre, il commence à avoir son premier kick sur la petite fille à côté ou le petit gars. Là, il commence à « qu'est-ce que j'ai de l'air? »« Je suis correct? »« J'ai dit ça-tu le bouton que j'ai en face? »« C'est pas pire? »« Viens, je vais te donner du... » Pour que... parce que je veux pas avoir l'air fou. Fait qu'il y a comme un narcissisme qui est normal dans l'adolescence. Mais quand ça vient... quand ça arrive au point où est-ce que je ne suis centré que sur moi-même, là, ça cause des problèmes dans ma vie spirituelle. L'auteur va dire, nous devons abandonner la fausse idée que les formes culturelles sont neutres. Inculturation. Donc chaque fois que la culture va influencer l'Église d'une façon ou d'une autre, puis qu'elle va mettre en lumière certaines bonnes choses, il y a aussi des points qui vont s'obscurcir. Puis il faut veiller à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand la passion est rentrée dans les années 40-50 dans l'Église, c'était fantastique. Gloire à Dieu pour les mouvements de jeunesse de cette époque-là. Ils ont fait rentrer une passion qui était pas absente, mais presque avant ça. Mais ils ont laissé de côté plein de bonnes choses, puis des choses essentielles. Tournez avec moi dans l'Écriture. On va faire un lien maintenant avec ce que la parole de Dieu dit. Quand on dit dans... on va tourner premièrement dans Tite 2, 1 à 15. Tite 2, 1 à 15. Paul va dire, il dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Et là, il va expliquer, de verset 2 à 15, toutes les strates de la société en termes de groupe d'âge. Il va parler des vieillards au verset 2. Il va parler des femmes âgées au verset 3. Il va parler des jeunes femmes au verset 4. Il va parler et au verset 5. Il va parler des jeunes au verset 6. Verset 7, « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. » Une parole saine, verset 8, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Il va parler du serviteur, verset 9. Ensuite, il va leur. Et tout ce qui s'implique, verset 11, car la grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes a été manifestée, elle nous enseigne. Et là vient la maturité. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité. Il y a comme un appel et il y a plein de passages qui appellent les chrétiens à la maturité. Tournez dans Hébreux chapitre 5. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, verset 11. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et là, verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est Hébreux 5, 14. Hébreux 5, 14. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici appelle à la maturité chrétienne. Il dit, vous ne pouvez pas rester des enfants. On pourrait faire des liens ensuite avec 1 Corinthiens 13 à la fin. T'sais. Quand on est enfant, on voit, il faut voir comme un homme fait, comme des hommes, comme des adultes finalement. Un homme fait, c'est un adulte. On doit pousser vers la maturité spirituelle. Et la maturité, la personne mature spirituellement va avoir ses émotions, ses sentiments effectivement comblés par la communion fraternelle dans l'Église, par sa communion avec Dieu, c'est certain, mais elle ne sera pas sentimentale. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre la sentimentalité, par exemple, et l'amour? La sentimentalité, c'est quand mes sentiments gouvernent la relation que j'ai avec l'autre. Je laisse mes sentiments me dicter. Ça veut dire, je me sens bien ou je ne me sens pas bien dans une situation. Mais la Bible nous appelle à vivre selon la vérité. Ça veut dire que l'émotion, les sentiments doivent tomber en deuxième par rapport à ce que la Bible dit des choses. Et la personne mature, l'adolescent, c'est normal qu'il passe par des hauts et des bas. Il y a un bouillon d'hormones qui traverse ses veines. Puis souvent, on revoit de l'émotivité comme ça, parfois chez la maman qui est enceinte et qui a aussi un bouillon d'hormones dans son corps, puis elle réagit trop. Des fois, elle va partir à pleurer pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouillon d'hormones dans son sang, puis elle réagit, elle surréagit. On voit la même chose chez les adolescents. On voit la même chose chez des hommes qui vers la quarantaine, commencent à avoir des fluctuations hormonales. Ils ne sont pas habitués parce que les autres sont déraillent complètement. Les hommes ont un lien à jouer là-dedans. Par contre, quand, en tant qu'homme et femme, habitués à dire « Non, c'est la vérité qui va gouverner ma vie, c'est pas mes sentiments, c'est pas mes émotions. » Les émotions et les sentiments ont un rôle à jouer, comprenez-moi bien. Ils ont un rôle à jouer, très important. Mais ce n'est pas le rôle de capitaine de ma vie. Parce que sinon, on devient comme des poissons. Excusez-moi, là. Mais cette semaine, on était au chalet, ma femme et moi, puis on a passé un bon... Puis quand, justement, Pasteur Jean-Sébastien et sa femme sont venus au chalet, puis on était arrêtés, puis on regardait les petits poissons dans l'eau, tu sais, puis comment ils voyaient, ils vont, puis tout ça, tu sais. Je pensais à ça aujourd'hui, je dis que là, à un moment donné, on est comme des poissons, parce que dès qu'il y a quelque chose d'attrayant, le poisson, il ne discerne pas. Lui. Quelque chose d'attrayant, il va aller, puis il va se piquer après l'hameçon. Indépendamment. Peut-être que si ça fait 3-4 fois qu'il se fait... Ben, il y a la mode beaucoup là en ce moment. Tu pêches ton poisson, tu le regardes, tu le jettes à l'eau. C'est excellent. C'est pas pour le manger, jette-le à l'eau. Là. Mais j'imagine qu'un poisson, à un moment donné, doit faire attention. Ça se mange-tu, cette histoire-là? Ça fait 3-4 fois d'avoir la mission dans la gueule, j'imagine que toi, après. Juste Doris qui oublie. Mais sinon, on est comme ça, dirigé par nos passions. Puis Paul, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils sont dirigés par leur passion. C'est une des caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas dirigé par Dieu, qui n'est pas dirigé par la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est dirigé par ses passions. Les émotions sont là comme une harpe. j'oublie le passage dans Ésaïe qui donne cette image-là, mais comme une harpe qui répond à l'artiste. Les émotions répondent à ce à quoi, ce qui nous environne. C'est important. Pas d'émotion, on passe notre vie comme sur une flatte. Les émotions sont très importantes. Mais sauf qu'elles sont là pour réagir, pour répondre. Pas pour diriger. Pas pour prendre des décisions. Sinon, on va me péter les dents à chaque fois. Dans Pierre, 1 Pierre 1:22, écoutez bien ça comment c'est important, la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Alors, on purifie nos âmes en obéissant à la vérité. La vérité a un rôle primordial à jouer dans ma vie. La parole de Dieu a un rôle primordial à jouer dans ma vie, tellement que ça peut aider à purifier mon âme. L'obéissance à la vérité. Pour, et là, il y a un pour. À chaque fois que vous voyez pour, il faut se demander pourquoi il est là, ce pour-là. Parce qu'il y a une raison. Il dit quelque chose, puis il donne la raison pourquoi il te le dit. Pour. Pour avoir un amour fraternel sincère. Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens dire, moi, je suis là pour l'amour fraternel sincère. La vérité, là, la parole, puis tout ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la relation. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je l'entends souvent. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Non. Obéis à la vérité. Puis tu vas avoir une relation fraternelle sincère. Mais obéis premièrement à la vérité. C'est pas tes émotions qui vont guider tes relations interpersonnelles. C'est la vérité. Entre toi et moi, il doit avoir un standard de vérité qui va faire que je vais pouvoir te faire confiance, tu vas pouvoir me faire confiance, tu vas pouvoir croire ce que je te dis parce que tu sais que mon standard, c'est la vérité, mais aussi je marche sur les standards vrais de la parole de Dieu. Quand la vérité est entre toi et moi, vérité, la vérité de mes actions, de mes mots, mais aussi la vérité en tant que parole de Dieu, donc Dieu ne ment pas. Il est impossible à Dieu de mentir dans Hébreux chapitre 6. Alors, ça devient un étendard, ça devient un standard dans notre vie. Et ça permet d'avoir entre nous un amour fraternel sincère. Après, il dit virgule. En français, il y a une belle petite virgule ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. On a purifié, on a obéi à la vérité. Obéir à la vérité, ça a purifié nos âmes. On peut avoir à cause de ça un amour fraternel sincère. Ensuite, on peut s'aimer ardemment les uns les autres. Mais on a tendance à vouloir mettre l'amour ardent, puis comme laisser tomber la vérité. Comme si ce n'était pas important. Non. C'est justement, c'est essentiel la vérité. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça nous cadre. C'est des standards. Et la dernière chose que un adolescent qui se laisse aller à ses passions veut, c'est se faire dire par ses parents, tu rentres à telle heure. Tu fais comme ça, tu fais comme ci. Pourquoi? Parce que le jeune, il veut être autonome, il veut être indépendant de ses parents, en même temps, il est encore assujetti à ses parents, il veut pas, et là, il y a comme un conflit de rébellion envers ce qui est dit. Et un christianisme adolescent a ce même genre de réaction face aux standards de la parole de Dieu, face à Dieu et face aux autorités que Dieu a mis sur l'Église. Et comme l'adolescent, là, tu n'exagères pas, là. Les autres ne font pas ça. T'en mets trop. Mais les standards de Dieu, les autres, n'ont pas changé. La vérité ne changera pas. J'aurais beau m'insurger contre la vérité, ça ne changera jamais. Donc, l'amour, la vérité, c'est des choses qui ne peuvent pas être séparées dans le Seigneur. Je ne peux pas aimer sans vérité. Puis si je parle de la vérité sans amour, ça ne fonctionne pas. Les deux aspects sont tout aussi importants l'un que l'autre. Prenons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Verset 9. C'est sûr qu'il y a un contexte à ça. Il y a un principe quand même à tirer de ce contexte-là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Première chose qu'il faut comprendre dans ce passage-là, il faut voir qu'est-ce que le texte ne dit pas. Le texte ne dit pas que Dieu ne leur a pas donné l'offre de la vérité pour être sauvés. C'est qu'eux n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le mot grec ici veut dire accepter l'offre de quelqu'un, recevoir, accepter l'offre de quelqu'un. Dieu offre aux individus, offre aux croyants et aux non-croyants, à bien des égards, cet amour de la vérité. Mais je peux choisir de refuser l'amour de la vérité et commencer à haïr la vérité. Je commence à rejeter la vérité. Comme il dit, je pense que c'est dans Hébreu, quand ça dit... Je n'ai pas mêlé la foi. Dans Darby, c'est... Attends un petit peu, je vais essayer de trouver le passage. Ce sera pas long. Quand il dit dans Hébreu... Bon, je vais juste chercher foi dans Hébreu. Ça va être... Excusez-moi pour ce délai, j'ai pensé à ce verset-là, puis je me suis dit, c'est tellement beau que je vais vous partager. Oui. Dans Hébreux 4, 2. On va commencer avec le verset 1. Créons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Je vais juste lire dans second, c'est plus facile à lire, mais on va revenir dans le derby, ce ne sera pas long. Il dit, verset 1, « Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Darby traduit mieux ici le verset en disant ceci. Il dit, la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Alors, tu reçois l'amour de la vérité, on l'a vu dans Thessaloniciens, tu mêles la foi avec ce que tu entends, et là, ce que tu entends te sert. Tant et aussi longtemps que tu refuses l'amour de la vérité et que tu refuses de mêler la foi avec ce que tu entends, tu demeures un adolescent spirituel. Parce que tu ne veux pas obéir. Tu penses que les standards, tu penses que la vérité, tu penses que les exigences de Dieu sont trop élevées. Comme le jeune qui se dit à son père, hey, « Là, tu n'exagères pas. Là, ça suffit. » qui fait sa crise. Moi, je me souviens d'avoir dit ça à mon père. Est-ce qu'on veut devenir des hommes et des femmes matures dans le Seigneur ou on veut rester d'éternel ado dans le Seigneur? Je pense que Dieu nous appelle à être des hommes faits. On l'a lu tout à l'heure. Ça veut dire, et je parle à vous, mesdames, pareil, d'être des adultes dans le Seigneur. Et ne pas laisser cette culture de juvénilisation venir me séduire à penser que Dieu n'est là que pour régler mes problèmes. Non. Dieu m'offre la main. Veux-tu travailler à mon œuvre avec moi? Veux-tu être couvrier avec moi? Mais ça, ça veut dire que ça va être tough. Ça va être rough. Paul a dit, et j'ai travaillé plus que tous. Le grec, c'est épuisement. Non pas moi, la grâce de Dieu qui est en moi. C'est le fun, cette dernière partie de verset-là. Hey, c'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Ça va être cool. Attends, oh, oh, jusqu'à épuisement. Paul, il a été traîné dans la boue, lapidé, tiré, frappé. Il a été dans les naufrages. Il a été massacré. Il a été épuisé. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et ça, ce n'est vraiment pas populaire dans un christianisme adolescent parce qu'on veut toutes les choses tout cru. Quand la parole de Dieu, vous pouvez le voir, les gens qui sont adolescents, quand la parole de Dieu est enseignée, est-ce qu'ils sont là pour écouter la parole ou ils sont dans leur petit coin, je ne sais pas moi, à parler, à rire, à jouer au poule, à faire quelque chose, ou est-ce qu'ils sont là à vouloir écouter l'Écriture? S'ils veulent écouter l'Écriture, s'ils se mettent sous l'enseignement de la parole de Dieu, c'est des gens qui veulent devenir matures. Ça peut devenir des modèles. Mais s'ils veulent faire ce que leur ventre désire, ce qu'ils veulent finalement, sans se mettre sous la... Le prophète dit qu'il est bon que le jeune homme soit sous le joug durant le temps de sa jeunesse. La jeunesse n'est pas là pour faire ce que je veux, comme bon me semble. La jeunesse est là pour être... Et il y a de ça, je comprends, c'est extraordinaire, la jeunesse, et gloire à Dieu pour les mouvements. Savez-vous qu'une bonne partie des réveils, et là je parle bien avant toute cette juvénilisation-là, là, une grande partie des réveils dans l'histoire, ça a été des réveils de jeunes, j'en ai souvent parlé ici, des réveils de jeunesse. Pourquoi? À cause de cette passion qui dit « oui, c'est possible ». Les vieux, souvent on est là, cynique, « ah, oh, ça se fait plus, c'est plus possible ». Cynique, déprimé, défaitiste, il n'y a plus rien qui est possible. Le jeune, « Hey, non, ça marche encore, Dieu est fidèle. » Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réveils de jeunesse incroyables dans l'histoire. Mais ces jeunes-là, quand tu lis leur vie de ces missionnaires, de ces mouvements de jeunesse-là, les gars, ce n'étaient pas des ados. C'était des adultes passionnés, même s'ils étaient jeunes. Même s'ils étaient jeunes. Donc, il faut se stimuler en disant non, la parole de Dieu doit être au centre de nos préoccupations. Oui, ça va stimuler les émotions. Oui, il va y avoir des émotions. Oui, on va avoir du fun. Oui, on va aller de l'avant. Oui, on va faire des projets. Oui, on va... Mais ce qui doit cadrer tout ça, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'accepte, je reçois l'amour de la vérité qui nous est offert. Je mêle la foi à la parole que j'entends et je marche en fonction de ce que j'entends. Et Dieu va être fidèle. Mais ça ne sera pas facile. Ça va être tough. Dieu ne nous a rien promis de facile. Au contraire, il n'arrête pas de nous avertir dans les Écritures. Il va y avoir des persécutions. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ va être persécuté. Ça va être rough. Fais attention, tu vas voir, tu vas souffrir. Prends courage. Combien de fois il va dire à Josué, prends courage? Il s'en va sur le combat, là, lui. Là. Il y a de ces chums qui ne survivront pas à ces combats-là, des fois. Il y a des vrais combats. L'ennemi est impitoyable. Il va utiliser n'importe qui pour nous avoir. Ça va être tough, ça va être dur. Mais Dieu dit, garde, viens avec moi, marche avec moi, coopère avec moi, et tu vas devenir mon collaborateur. Et sois sans crainte. Sois sans crainte. Dans 1 Corinthiens 4, il dit quoi? Il est fidèle. On va le lire ensemble puis on va terminer avec ce verset-là. 1 Corinthiens 4. verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, donc des administrateurs, des gens qui vont administrer les mystères de Dieu. Verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, lisez bien ce qui est écrit. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. J'aime la louange. J'aime les temps de louange. J'aime les temps où est-ce qu'on va glorifier Dieu. On loue on adore Dieu dans ses attributs. On loue ses œuvres. On loue ses hauts faits. Mais imaginez-vous le jour et l'heure où est-ce que Dieu lui-même va te louer pour ce que tu vas avoir fait. Bravo! Wow! Tu as bien fait à cet endroit-là. Tu ne t'es pas laissé te détourner. Tu as obéi à la vérité, coûte que coûte. Wow! Bravo! Tout un temps de louange. Il n'y en aura pas beaucoup de ces temps-là. Mais je te garantis que c'est celui-là, quand le Dieu de l'éternité, le roi de la terre, le créateur de l'univers, loue pour ce que tu as fait de bien, hey, tu vas le prendre. D'adolescents, poursuivons à maturité. Restons pas dans cette adolescence spirituelle-là. Devenons des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole. Rendre grâce pour qui tu es. Te rendre grâce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Te rendre grâce, Père, que ton but dans la vie, ce n'est pas simplement de régler nos problèmes. Dans le temps, il y avait la pub Métag là, qui réparait tout. Tu n'es pas le réparateur Métag, Seigneur Dieu. Seigneur, mais tu promets d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, de marcher à notre côté, d'être avec nous, de nous aimer. Mais tu nous invites à collaborer avec toi. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen.